Chapitre 4 Parole d'un croyant. Ils virent l'aigle et Mortagne, ils virent Alençon, Cèze et Argentan. Toutes ces vieilles petites villes de France, mi-urbaines, mi-campagnardes, si charmantes et d'un caractère si particulier. Ils les aimèrent. Elles se reposent des agitations d'un long passé glorieux. Elles ont quelque chose de las et d'apaisé qui délasse et apaise. L'atmosphère en est si accueillante que l'on consentirait presque à s'installer en ces asiles, où vivre après tout ne serait pas si mauvais. Et ils virent des châteaux, Fervaques, Mayoque, Broglie. Ils virent des ruines, ils virent Ronceret, berceau de Charlotte Corday. C'était une existence ineffablement bonne. Ils en jouissaient avec délices. Pascal, surtout, dont les goûts secrets se révélaient soudain conformes à ce genre de vie. Un enthousiasme croissant surgissait des profondeurs de cette nature jusqu'alors assoupie et en apparence indifférente. Il parlait, il discourait, toujours d'un ton convaincu, d'un ton de néophyte qui défend sa foi nouvelle. Ses hymnes à la bicyclette, ses dissertations sur son rôle présent et futur, faisaient l'amusement de Régine et de Guillaume, qui l'excitaient à des conférences à ce propos. « Moquez-vous, cela n'empêche pas que c'est un événement considérable. »« Bah, disait Arjol, mais que voyez-vous là de si extraordinaire ?» Eh bien, et cette mobilité qu'elle nous donne. Certes, l'homme n'a pas à se plaindre de sa taille, ni de sa force, ni de la largeur de sa poitrine, ni du développement de ses poumons. Mais comparer son appareil de locomotion à celui des animaux, depuis le lion et le cerf jusqu'au chien et au lièvre, quelle infériorité! Il n'avance pas, il se traîne. S'il veut courir, quelques centaines de mètres lui coupent les jambes. C'est un mal originel dont l'imagination des peuples a toujours été frappée et dont elle supposait affranchie les êtres surnaturels, les dieux qui traversent l'espace d'un bond, l'ogre qui chausse des bottes de 7 lieues. Le cheval, le chameau, le renne, les chars, la vapeur, l'électricité, autant de palliatifs qui n'en accuse que davantage la disgrâce de l'homme réduit à l'état de paquet, de colis, enfermé comme un paralytique dans la petite boîte des voitures ou dans le cercueil des compartiments. Et il concluait avec chaleur. Or, la bicyclette a résolu le problème qui remédie à notre lenteur et a supprimé notre fatigue. L'homme, maintenant, est pourvu de tous ses moyens. La vapeur, l'électricité n'étaient que des progrès servant à son bien-être. La bicyclette est un perfectionnement de son corps même, un achèvement, pourrait-on dire. C'est une paire de jambes plus rapides qu'on lui offre. Lui et sa machine ne font qu'un. Ce ne sont pas deux êtres différents comme l'homme et le cheval, deux instincts en opposition, non. C'est un seul être, un automate d'un seul morceau. Il n'y a pas un homme et une machine, il y a un homme plus vite. Régine et Darjol se divertissaient beaucoup. Madeleine souriait sans ironie. Déconcertée d'abord, elle s'accoutumait à son compagnon et à ses allures insolites. Il lui semblait que son voyage avait débuté avec Pascal Fauvière et qu'elle le continuait avec un autre, un inconnu rencontré en route, et qu'il entraînait à sa suite, captivante et mystérieux. Ils causaient peu, une entente instinctive leur permettant de se taire. Mais parfois, c'était des mots graves, toute une émotion sincère qui jaillissait comme de l'eau, impatiente et fougueuse. Les deux couples allaient toujours du même, en se mêlant de moins en moins et s'abstenant de réfléchir à leur conduite bizarre. Peut-être cependant une gêne imperceptible Comment s'est-elle atténuée l'harmonie de leurs rapports quand ils se retrouvaient tous ensemble? Gêne produite sans doute par le ménage Fauvière qui s'oubliait en discussion assez vive. En réalité, Régine s'émancipait de plus en plus, lâchée à ses élans, ivre de cette vie en plein air, comme si le soleil et le mouvement lui eussent tourné la tête. Elle rejabait à la moindre réprimande et Pascal, plus aisément irritable, s'emportait. Un jour, au sortir d'une ville, elle apparut le buste dans un maillot de laine blanche qui moulait sa jeune poitrine et obéissait au frémissement de la chair. Il fallut une scène pour qu'elle y renonçât. Un autre jour, au détour d'une route, Madeleine et Fauvière, effarées, l'aperçurent à cheval sur les épaules de Guillaume. Derrière eux, deux gamins traînaient les bicyclettes qu'une chute malencontreuse survenue au cours d'une course avait endommagée et faussée. L'inconvenance de cette position mit Pascal hors de lui. Il la lui reprocha durement. « Mais flûte, je sais ce qui me plaît, » riposta-t-elle. « Toi, tu fais des discours ennuyeux, moi je m'amuse à ma façon. N'est-ce pas, Guillaume, que l'on s'amuse bien? Est-ce qu'on est bons camarades maintenant ?» Une charrette passait, ils s'y installèrent avec leur machine. Les deux autres s'assirent au pied d'une meule de foin. Des nuages lourds pesaient sur les campagnes. Un temps d'orage crispait les nerfs. Pascal, très pâle, se contenait à peine. Madeleine lui prit les mains doucement. « Pourquoi vous mettez-vous en colère, Pascal ?» « Mais que vous importe les petites inconséquences de Régine, surtout avec Guillaume ?» Il se détendit. « Mais je n'y comprends rien, moi qui étais si patient autrefois, tout m'exaspère aujourd'hui. »« Vous n'êtes pas juste, Pascal, c'est une enfant, il faut la traiter comme telle. »«
Oui, c'est une enfant, et cela m'a toujours été facile d'user avec elle ainsi. » « Mais pourquoi est-ce que je ne peux plus? Pourquoi n'ai-je plus d'indulgence ni de bonté pour elle? » « Oh, je vous l'ai dit, je ne suis plus le même. Cette vie nouvelle me bouleverse. Elle éveille en moi des choses endormies et en anéantit d'autres qui m'étaient précieuses, indispensables. De ces dernières est mon affection pour Régine, une affection qui s'effondre avec mon passé. » Je regarde ma femme comme une étrangère, je la juge, remarque ses défauts. Elles me paraissent démesurées, intolérables.
Voyons, dit Madeleine, c'est une jolie petite nature honnête.
Oh, ce que je le sais, mais jamais pensé à cela. Je m'aperçois tout à coup que je ne la connais pas et qu'elle est pour moi un problème insondable. Un problème, d'ailleurs, qui m'intéresse nullement et que je n'essaye même pas de déchiffrer.
Vous ne l'aimez donc plus?
Est-ce que je l'ai jamais aimé? Je ne sais pas. Sa nature est si opposée à la mienne. Comment ai-je pu rester si longtemps sans m'en douter? Combien nous sommes loin l'un de l'autre? Combien nous sommes loin de l'autre? Ah, alors je suis malheureux. Il me semble que je suis tout seul, et pourtant, je n'ai jamais été si heureux. » Il avait dit ces derniers mots avec un élan de tout son être.
« Il faut que vous soyez heureux, Pascal. D'abord, vous n'êtes pas seul. J'ai beaucoup d'affection pour vous. »
« Oui, vous avez de l'affection pour moi, j'en suis sûr, et j'en ai pour vous, sincèrement. Avons-nous mis du temps à nous rapprocher et à deviner que nous pouvions nous entendre?
Mais ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas d'avoir de l'affection pour vous, c'est de vous le dire comme cela, en face, sans gêne presque. »
Ils se regardèrent longtemps, puis Pascal détourna la tête, et ils portèrent les yeux alentour vers le ciel, vers l'horizon, vers les petites fleurs humbles qui étaient dans l'herbe environnante. Le ciel leur parut un spectacle adorable et tragique,
avec ses nuages énormes et les abîmes d'un bleu délicat qui s'ouvraient entre eux. L'horizon aux grandes plaines calmes, vêtues de blé et d'arbres de prairies, les charma par sa grâce onduleuse et par sa simplicité. Ils s'attendrirent devant les petites fleurs fragiles, les herbes frissonnantes, les feuilles et les insectes. Pour la première fois, les choses du dehors les pénétraient autrement que par ces vagues impressions d'odeur et de couleur qui s'évanouissent aussitôt sans parvenir au fond de nous. Ce furent des caresses qu'ils reçurent, des caresses auxquelles ils répondaient en ardeur et en émotion. « Madeleine, Madeleine !» murmura Pascal. « Quoi, Pascal ?»« Rien, je ne sais pas, je ne sais pas. »